Bonjour à tous, les controverses du village, épisode numéro 10. C'est une spéciale Comic-Con. On vous donne rendez-vous chaque soir pendant les 4 prochains jours pour un petit débrief de quelques minutes de la journée. Et donc aujourd'hui, on revient sur cette première journée du Comic-Con 2011 avec à l'honneur la série HeroCorp.
Youpi !
C'est pas Hellcat ?
Non, c'était plutôt HeroCorp.
Ah, d'accord.
Tu veux que je te tape ?
Donc, bilan de la journée du jeudi, la première journée du Comic-Con. C'est la journée où on se lance tranquille, on est en semaine, mais finalement, il y a eu bien du monde quand même. Hein.
Et oui, ben, la salle de projection était blindée pour HeroCorp. Il y avait même des gens debout à la porte qui n'ont pas pu entrer. Donc, on est content.
Même l'affluence au niveau de la Comic-Con, j'avais le souvenir de cette affluence là pour le week-end, quoi, en fait. Et là c'était vraiment blindé, quoi. Bon, l'apport de la Japan Expo, il fait pour beaucoup, mais je pense qu'aussi, ça y est, quoi, la Comic-Con commence à prendre sa place, quoi.
Ouais, parce que honnêtement, je me rappelle, jeudi matin, l'année dernière, j'étais arrivé à peu près à la même heure, quoi, et la Comic-Con, ça démarrait tout doucement, quoi. Et même, il y avait des événements autour de Merlin le jeudi midi l'année dernière.
Pas fou, non.
Et ça s'était mis en route petit à petit, où, à la dédicace, les gens arrivaient. Mais à 10h30 ou 11h, je ne sais plus quelle heure de dédicace, les gens au début n'étaient pas là, ils sont arrivés en cours de dédicace, quoi. Donc là, c'est vrai que c'était parti beaucoup plus directement le matin. C'était bien lancé. Donc ma foi, très sympathique petit commentaire audio de l'épisode 12 de la saison 2 d'HeroCorp, l'épisode
Stratège
par Simon Astier, qui était vraiment visiblement très très ému de voir effectivement cette salle comble. Et très très chaleureuse, un peu à l'image, voilà, de ce qui avait pu se passer l'année dernière autour de la série.
Oui, et puis bon, donc l'épisode 12, donc c'était un épisode, il l'avait déjà plus ou moins pointé quand même dans sa proposition d'épisode pour lesquels il fallait voter, donc avant la Comic-Con, comme étant un épisode qu'il affectionnait particulièrement et sur lequel il trouvait qu'il y avait pas mal de choses à dire. C'est vrai que c'était riche. C'était très intéressant, on vous fera un compte-rendu de tout ça sous peu. Et puis c'est vrai que du coup, ça a permis de retrouver pas mal de public. Même quand on voit dans le public les gens qui étaient là, on retrouve beaucoup des personnes qu'on a vues pour l'Épinage Event, pour l'an dernier qui était là à la Comic-Con, qui ont suivi des dédicaces. Et en plus, d'autres personnes, je pense, celles qui arrivaient peut-être un peu plus tard. Il y avait les gros aficionados, une bonne centaine quand même de gros aficionados qui étaient là depuis bien une demi-heure avant la projo et qui ont eu la bonne surprise d'avoir du coup le droit à une dédicace surprise de Simon, Alban, Sébastien et Gérard. je cherchais qui était le quatrième, je ne me rappelle plus. Et voilà, donc ils ont eu donc une petite dédicace qui a suivi.
Une petite dédicace.
Oui, certes. Bon, la dédicace est encore en cours et ça fait déjà quelques heures.
Pour petite information, c'était les 100 premiers arrivés à la projection qui avaient le droit d'aller à la
dédicace.
La dédicace a commencé à 4h15. À l'heure où on enregistre ce podcast, il est 6h15. Je pense qu'elle se termine à peine. Donc c'est quand même pas mal pour une
petite dédicace. Mais c'est une dédicace à l'HeroCorp, c'est-à-dire que globalement, je me souviens que l'an dernier sur la Comic Con, ça a été pareil. Ils prennent le temps de discuter avec chacun, d'échanger, de faire un petit mot personnel. Et ça a été ça sur aussi bien les dédicaces Comic Con que les dédicaces pure HeroCorp dans les Fnac ou Furet et autres cette année.
Bon, le message global sur HeroCorp.
Des bisous.
Toujours pas de renouvellement, mais en même temps toujours pas d'annulation officielle. Et le mot de clé de Simon, en plus des bisous, c'était de dire que la porte qui était bien fermée l'année dernière.
C'est moins annulé qu'avant.
Voilà.
Voilà, donc,
c'est que
donc
la campagne a eu un peu d'effet.
À nous d'enfoncer la porte lors de la rediffusion à l'automne prochain.
Non, la campagne, à mon sens, a eu un gros effet. Oui. Parce que c'est un cas, c'est du jamais vu en France, de redonner une chance à une série qu'on a refusé de relancer. Donc, ça a eu un énorme effet.
En gros, ce qui en ressort, c'est ça, c'est que on a réussi à faire bouger les choses, ou en tout cas à attirer l'attention à nouveau et des gens, et des journalistes, et de comédie, et que cette chance qui nous est donnée suite à ça de revoir la série en diffusion sur Comédie à la rentrée, c'est la dernière chance et il faut la saisir. Donc la campagne Pinage va être relancée. En parallèle, plein d'autres choses, et il va y avoir une vraie mobilisation pour rebooster d'ici la rentrée et remobiliser les fans, qu'on montre un peu en septembre que Comédie doit renouveler la série et financer une saison 3.
Alors Dominique, de ton côté, en plus de tout ça, tu as assisté cet après-midi à une conférence autour de Metal Hurlant, je crois.
Oui, tout à fait, autour de la revue Metal Hurlant qui a été éditée entre 1975 et 1987, à l'initiative de Jean-Pierre Dionnet. Donc pour ceux qui regardaient Canal Plus tard le soir, c'est celui qui faisait le cinéma de quartier, donc avec des films assez improbables, du giallo italien, des films de kung-fu. Enfin, c'était toujours dans la contre-culture. Et Metal Hurlant, c'est à l'image de Jean-Pierre Dionnet, quelque part. C'est de la contre-culture du début à la fin. C'est de la BD de science-fiction, c'est de la BD fantastique, c'est de l'érotisme, c'est quelque chose qui est toujours dans la marge. Alors, c'était une conférence hyper intéressante, où Jean-Pierre Dionnet a parlé peut-être 85% du temps, donc ça laissait pas grand-chose aux autres. Il y avait celui qui a pris sa place après à Metal Hurlant, dont j'ai oublié le nom, et aussi Franck Margerin, donc, qui est un dessinateur de bande dessinée très connu en France, entre autres par Lucien, son personnage de rocker. Donc, moi, j'étais assez surpris et un peu déçu du fait que la salle était vide. Enfin, quasiment, il y avait 25-30 personnes. Je trouve que c'est un petit peu dommage. En même temps, on ne peut pas non plus forcer les gens à aller voir, quoi. Mais c'est quand même un pan de contre-culture hyper important et qui a été totalement fondateur de la BD qu'on connaît aujourd'hui. Sans Metal Hurlant, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Bon, il y aurait peut-être eu autre chose, mais quelque part, c'est fondateur. Donc,
Après, c'est vrai que c'est un des signes. Globalement, la moyenne d'âge du public est à 20 ans, la moyenne, quoi. Donc voilà, ils n'ont même pas connu Jean-Pierre Dionnet à la télé, en fait.
C'est sûr que c'est pas encore l'âge où on a la curiosité de savoir quelles sont les influences de ceux qu'on suit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'eux suivent des dessinateurs qui ont été influencés par Metal Hurlant. Ils auront peut-être la curiosité, dans 10-15 ans, de se dire « mais c'était quoi ce truc ?» Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ils ne l'ont pas.
Bon, et puis cette conférence sur l'époque de la bande dessinée était un prologue au fait que demain, on pourra voir Metal Hurlant Chronicles, le premier épisode, qui est en fait une série anthologique qui adapte un peu l'univers de Metal Hurlant. Et qui est une série, pour l'instant, ce pilote a été autoproduit par les producteurs, en fait, et d'ailleurs vendu à l'étranger. Mais voilà, c'est de la science-fiction, donc ça n'intéresse, alors qu'il est, aucune chaîne en France. Donc on verra comment ça se passe à l'avenir. Du côté des projections aujourd'hui, vous savez, l'invité d'honneur de la Comic-Con en 2011, c'est Steven Moffat. Dimanche, ce sera la grande journée Doctor Who, voilà. Et toute la semaine, on rend un petit peu hommage à Steven Moffat et à ses productions. Donc, notamment, il y avait une projection de Blink
oui.
son fameux épisode. Emily, t'as écrit un papier sur
ouais,
le site.
Oui, c'était un peu mon tour, en fait, vu que Suleiman en avait parlé sur la critique saison 3, Dominique dans le top 10. Donc, j'ai mis mon point de vue également. Moi, ce que j'en retire de cet épisode... C'est une incroyable poésie, en fait. Oui, il est terrifiant sur le côté des anges, parce qu'on ne comprend pas. En fait, ce qui est terrifiant, c'est qu'on est dans la même situation qu'elle. C'est que pendant la moitié de l'épisode, on ne sait pas quelle est la menace, mais on sent qu'il y a quelque chose. On nous pousse des indices avec ces anges qui sont quand même bien étranges et qui sont toujours présents et qu'elle commence à voir. Et on comprend qu'il y a quelque chose avec ça, mais globalement, c'est ça qui est terrifiant. C'est l'ange en lui-même, on le comprend que sur la fin et sur son pouvoir réellement. Les épisodes suivants vont beaucoup nous éclairer aussi sur notamment le double épisode de la saison 5, mais je le trouve extrêmement poétique parce que c'est beaucoup lié à l'actrice, à Carey Mulligan, qui est d'une justesse infinie, mais aussi au fait que c'est à chaque fois des tout petits éléments très bien placés, très fins, qui permettent de faire le lien entre les différentes pièces du puzzle. Le moment où elle est dans ce vidéoclub et où elle ressort du vidéoclub et où elle entend ce gars qui insulte sa télé en disant « mais va à la police !» Et là, elle part à la police, justement, et c'est bien amené, ça paraît pas non plus avec les gros sabots. Globalement, moi, c'est un de mes épisodes, c'est mon épisode préféré. De toute façon, celui-là et Midnight, c'est mes deux stand-alone préférés. Et c'est ce que j'ai écrit, d'ailleurs, c'est que les stand-alone, souvent, on les regarde un peu et on s'excite beaucoup sur les épisodes mythologiques de début, fin de saison, etc. Où le docteur meurt, ce genre de choses. Et tout compte fait, il y a des petites perles comme ça dans chaque série. Ils sont juste magnifiques, on peut les revoir en boucle.
Et puis c'est la grande force de cet épisode, en fait, c'est le procédé de base, qui est un procédé casse-gueulissime, c'est-à-dire que tu fais un épisode de Doctor Who quasiment sans le docteur. Et ça aide, en fait, à cet épisode-là, parce qu'il y a un processus d'identification qui est beaucoup plus fort que d'habitude dans un épisode de Doctor Who, même si par le biais des compagnons, on peut s'identifier, mais c'est impossible de s'identifier au docteur. Là, on est carrément dans l'empathie complète, dans l'identification complète, et ce qu'elle vit, on le vit aussi. Donc c'est aussi... Le rapport de peur n'aurait pas été le même si ça avait été le docteur en personnage central de cet épisode-là. Le fait que ça soit quelqu'un comme vous et moi, c'est ce qui fait aussi la force de l'épisode.
Et ça perturbe même, parce que on a l'habitude, quand on regarde un épisode de Doctor Who, on sait qu'on va avoir telle ou telle menace, tel ou tel problème, et on a l'habitude de se laisser guider par le docteur. Donc là, même sans l'aspect identification, on essaye, on se dit, mais il va y avoir quelque chose, il va nous donner des bribes, et on les a pas, et ça frustre. Et c'est vrai que du coup, ça alimente, de toute façon, tout s'auto-alimente dans cet épisode. Et moi, j'ai noté aussi dedans à quel point on trouvait, ce qu'on va voir quasiment comme point central pour moi sur Moffat, c'est les chronologies croisées, les timelines croisées. Même là, déjà, c'était présent, beaucoup plus basiquement, où c'était une boucle, mais c'est quand même pour moi son gros dada.
Ouais, c'est marrant que tu dises beaucoup plus basiquement, parce que pour déjà là c'est un petit peu alambiqué, mais alors après
voilà,
c'est juste,
non mais c'est par rapport à après, quand tu vois après les timelines inversées,
c'est
là,
juste de la folie,
là les mecs repartent en arrière et c'est le futur qui communique avec le passé et le passé qui communique avec le futur, donc t'as une petite boucle, c'est soft par rapport à Riverson, quoi,
par rapport au reste.
Bon, et pareil dans cette lignée de l'hommage un peu à Doctor Who, on avait aujourd'hui d'autres voyageurs temporels qui était présenté, et donc notamment en fait le tout dernier épisode de la série Code Quantum, parce que la saison 5, la toute dernière saison de Code Quantum sort en DVD là ces jours-ci, elle était encore inédite en DVD, donc voilà, l'intégrale sera disponible. Donc dernier épisode de Code Quantum, un épisode alors ouais, c'est ce que j'ai dit dans mon papier, Code Quantum c'est étrange parce que vu d'aujourd'hui, c'est vraiment une série sans le savoir, on pourrait la remettre à la place qu'elle a eue, c'est-à-dire c'est la charnière entre les années 80 et les années 90. On a déjà le prélude au sci-fi boom qu'il va y avoir dans les années 90, parce que Code Quantum s'est arrêté à peine juste avant le début d'X-Files. Et il y a tout ça qui est un peu en germe, mais en même temps, on est encore vraiment dans une série des années 80, il n'y a aucune continuité, il n'y a aucune mythologie, tous les épisodes sont complètement indépendants. Et il y a aucune véritable construction scénaristique sur les 5 saisons, et même les personnages évoluent quasiment pas, en fait. Et c'est marrant parce que dans la toute dernière saison, il y a une tentative d'introduire justement une méchante qui jouait dans 3 épisodes. Et en fait, j'ai appris du coup en me renseignant sur ce final, parce que je ne savais pas, qu'au moment où il a été écrit, Belisario ne savait pas si ce serait le final ou s'il y aurait une suite. Et du coup, il y a une fin alternative qui prolonge l'épisode tel qu'on le connaît, et qui amène à un cliffhanger pour la saison suivante. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que clairement, on est en train de changer d'époque, et que le cliffhanger pour la saison suivante faisait évoluer de manière assez importante la série. Parce qu'en l'occurrence, donc dans ce dernier épisode, qui est vraiment un épisode poétique, qui revient sur la figure du héros hors norme qui est Sam Beckett, Il fait un saut dans son propre corps, il remplace personne d'autre, il se retrouve à l'instant précis de sa naissance dans un petit bar d'une ville minière, et il comprend petit à petit, il voit plein de figures familières autour de lui, et il comprend que le barman, le tenancier de ce bar, en fait, c'est... Voilà, depuis le pilote, il s'interroge, qui est-ce qui contrôle ses sauts dans le temps, qui choisit ce qui doit aider? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est la destinée? Il n'y a pas vraiment de réponse, mais en tout cas, que ce soit Dieu, le temps, la destinée, cette personne, c'est le barman. Et ils sont face à face, et le barman confronte Sam Beckett à ses propres choix et au contrôle qu'il a de sa propre vie, et amène Sam, même si parfois il est nostalgique de sa maison et de rentrer chez lui, à réaliser que finalement, aider les autres, c'est ça qu'il veut. Et du coup, voilà, il fait un dernier saut, il fait un nouveau saut. Plutôt que de rentrer chez lui, il préfère aller faire ce qu'il n'avait pas fait quelques années plus tôt. Il avait refusé de venir en aide à Al, son compagnon hologramme, parce qu'il pensait que c'était des affaires personnelles de Al et que c'était pas pour l'aider lui qu'il avait été envoyé dans l'entourage de l'ex-femme de Al, qui s'appelle Beth. Je pense que c'est mon épisode préféré de la série, c'est le final de la saison 2. Et donc voilà la dernière scène de la série qui est juste bouleversante. Il va finalement revoir Beth, lui dire que son mari n'est pas mort, qu'il est prisonnier, qu'il va revenir. Et on a ce carton final qui nous apprend qu'elle n'a pas divorcé, qu'ils sont restés mariés, qu'ils ont eu 4 enfants. Et puis on nous indique aussi ensuite que le docteur Beckett n'est jamais rentré chez lui. Voilà, donc c'est une très très jolie fin. Moi je suis vraiment très content que la série soit terminée comme ça. Comme je le disais, si jamais ça avait continué, on aurait retrouvé ensuite Al et Beth au temps présent, entre guillemets, de la série, qui était le futur par rapport à ça. Sa diffusion, et Al expliquait qu'après ça le barman avait envoyé Sam ailleurs et qu'il pensait qu'il était dans un très très distant futur, mais la règle de la série c'était que les sauts dans le temps de Sam pouvaient se faire que dans le cadre de sa vie à lui, c'est-à-dire du jour de sa naissance au jour de sa mort. Et donc là visiblement il avait été envoyé dans un très distant futur, et du coup Ziggy était incapable de le retrouver, et du coup Beth suggérait à Al que le seul moyen de le retrouver c'était de devenir un voyageur dans le temps comme lui. Et du coup, voilà, Al rentrait dans le projet Quantum, il allait voir le barman qu'il envoyait dans un futur de science-fiction dans lequel Sam se trouvait. Oui, donc c'était un gros pari pour la suite de la série. Oui. Je suis assez content que ça soit terminé comme ça se termine.
Surtout qu'il y a eu une tentative de remake, enfin de reboot, il n'y a pas longtemps, qui a complètement avorté.
On en parle de tout le temps depuis 15 ans en fait.
Oui, voilà,
ça s'est jamais fait, ouais.
Ça n'aurait plus trop de sens maintenant. Et ce qui est assez marrant, c'est que, dans mon souvenir, c'est une des premières séries, déjà, de SF, tout simplement, qui a été diffusée à 20h30 sur M6. Quoi. Il me semble que le souvenir que le pilote avait été diffusé à 20h30, ça, par contre, oui.
Ah, c'est possible. Je sais que le gros de la diffusion s'est fait à 19h,
ouais.
Mais notamment, ça marchait bien à l'époque. Hein,
oui, oui.
Et ils avaient fait quelques soirées en prime time avec une sélection d'épisodes. L'intégrale de la série n'est pas passée en prime time, mais ils ont passé plusieurs épisodes en prime time. Bon, voilà un petit peu, en gros, je crois que j'ai pas oublié grand chose. Enfin, pour tout vous dire, j'ai un peu oublié L4, mais
on n'oublie pas besoin.
Voilà, vous avez lu ce qu'a écrit.
Pas besoin.
Et donc voilà pour un petit peu le bilan de cette première journée du Comic Con. Et ben écoutez, je vous donne rendez-vous demain. Et d'ici là, bonjour chez vous.